Bon, d'entrée de jeu, le sujet s'impose, bien sûr, la soirée électorale d'hier. Les résultats, je le disais, sont semblables à ceux de 2019. Justin Trudeau demeure chef du gouvernement, premier ministre du Canada, avec un gouvernement minoritaire. Mais oui, ça ressemble aux résultats de 2019, mais l'effet sur les différents chefs sera forcément différent. Bon, d'abord, il y en a un nouveau, le Erin O'Toole, qui n'était pas là la dernière fois. Et aujourd'hui, je pense que ce midi, ce qu'on veut faire, c'est s'interroger sur l'avenir des chefs. Quelles sont les perspectives de chacun d'entre eux? Alors, Justin Trudeau, bien des gens disent qu'il est fragilisé. Erin O'Toole, on l'a entendu hier dans son discours, là, ce qu'il souhaitait vraiment, c'était affirmer son leadership du Parti conservateur, sentant sans doute qu'il y aura probablement un vent de contestation. Yves Planchet nous avait espérait avoir 40 députés. Ça n'a pas été le cas et il souriait un petit peu moins qu'il l'avait annoncé lors de son discours de fin de soirée, qui a été très digne, mais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de joie dans le propos. Alors, on va parler de tout ça avec Carl Bélanger, qui est analyste politique pour Cogeco Média, et Tasha Keridan, analyste politique et conseillère chez Navigator. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Tasha, je vais commencer avec vous. Justin Trudeau, de l'avis général, sort affaibli de ces élections. En revanche, il demeure premier ministre du Canada, avec un mandat minoritaire, certes, mais là, les autres partis, ils l'ont tellement critiqué d'avoir déclenché des élections, donc on ne s'attend pas à ce qu'ils projettent le pays en élection de nouveau. Donc, il pourrait être là pour un certain temps encore. Est-ce qu'il est si affaibli que ça?
Je ne pense que non. Il aurait été très affaibli s'il aurait eu moins de sièges qu'il avait à la dissolution du Parlement, mais ce n'est pas le cas actuellement. Il a 3 de plus, 158. Alors, pour tout le monde qui disait qu'il avait fait un mauvais pari, c'est sûr qu'il n'a pas gagné une majorité. Mais il est toujours là. Et je pense que les adversaires ont pire fait. Alors, je pense qu'il va probablement demeurer en poste. La question, je pense pas qu'il va déclencher les élections la prochaine fois. Je pense qu'il va laisser aux adversaires lui faire tomber sur un budget ou quoi que ce soit.
Ce qu'il a dit. Hein? Je vous ai compris. Ouais, ouais. Hein? Il rappelait un petit peu le général de Gaulle à Alger au début des années 60.
Il avait dit ça avant. Il avait dit, personne ne veut une élection pendant une pandémie. Oups. Alors, je pense que le réel politique va dicter quand les prochaines élections vont avoir lieu.
Bon, Carl, vous, je vais vous demander de vous pencher sur le cas Erin O'Toole. J'en parlais tantôt. J'écoutais son discours. C'est un discours hier soir, en début de nuit, là, très vigoureux. C'était comme un discours électoral. Il a voulu affirmer son leadership. Manifestement, il disait « Je vais rester là. On va revenir fort et tout et tout. » Comment vous avez analysé son discours? Quelle lecture vous en faites?
Mais c'est le début de la 45e élection avec ce discours. Erin O'Toole a appris de ce qui s'est passé avec Andrew Scheer. Andrew Scheer était chancelant après la dernière élection, même s'il avait le même genre de résultat qu'Erin O'Toole, même s'il avait gagné lui aussi le vote populaire comme Erin O'Toole l'a fait hier. Alors Erin O'Toole veut régler ça rapidement, là. Il veut pas avoir de contestation, il veut être bien en selle, et d'après moi, pour le Parti conservateur, ce serait une erreur de recommencer encore une fois à zéro, alors qu'on a un gouvernement minoritaire, repartir avec un nouveau chef, et Erin O'Toole place ses pions immédiatement, ne peut pas perdre de temps, parce qu'évidemment, même si les chances sont peu probables, il y a des votes de confiance qui vont déjà être tenus dès la mi-octobre, et évidemment, le budget qui s'en suivra au printemps.
Mais vous pensez pas que l'aile droite de son parti, ou en fait l'aile droite de son parti, va faire des siennes puis va dire non, Erin, ça va pas, tes politiques pour nous?
Ouais, ce qui est paradoxal, évidemment, c'est que la dernière fois, l'aile droite avait choisi son chef et ça n'a pas fonctionné non plus. Et on l'a mis dehors quand même. Si c'est pas à droite, puis si c'est pas au centre, c'est où? Et c'est là où la question se pose pour le Parti conservateur. Quel est le chemin de la victoire? On a eu, depuis la fusion des partis de droite, là, 7 élections fédérales. Le Parti conservateur a remporté le vote populaire dans 5 d'entre elles, mais n'a formé le gouvernement que dans 3 de ces occasions et une fois seulement a été majoritaire. Alors, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce chemin de la victoire pour les conservateurs.
Bon, Tasha, il y a aussi Jack Meeting qui n'a pas eu la soirée espérée. Ils ont un petit peu plus de députés, les néo-démocrates. Mais il n'y a pas eu de poussée, il n'y a pas eu d'élan vers le parti de Jack Meeting.
Non, ils ont eu, je pense, 2% de plus du vote populaire. Et la dernière fois que je regarde ici, c'est le 25 sièges. Alors, seulement un de plus. Alors, c'est pas vraiment fameux. Avec tous les efforts dans les réseaux sociaux, je trouve ça intéressant d'analyser cela parce que M. Singh misait vraiment sur la nouvelle génération TikTok et tout ça, où il s'affichait. Et ces gens-là, soit ne se sont pas présentés aux urnes, soit il n'a pas réussi à changer la donne. Et particulièrement dans la couronne de Toronto et le centre de Toronto, plus le centre, là où vraiment l'NPD voulait recapturer certains comtés qui avaient perdu aux libéraux, ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que le parti doit changer ses tactiques? Peut-être. Je pense pas que Singh va quitter, d'ailleurs. Je pense parce que le fait qu'il a toujours conservé l'équilibre de pouvoir dans la Chambre des communes, je pense qu'il est dans une position où il va probablement rester au moins à la prochaine élection.
Bon, j'aimerais vous entendre tous les deux à propos du Bloc québécois. Le Bloc rêvait d'obtenir 40 sièges, ce ne sera pas le cas. Quand les dirigeants du parti se sont réveillés ce matin, quand même, le portrait était un peu meilleur que quand ils se sont couchés, sans doute. Là, il y a eu des remontées du Bloc québécois dans des comtés qui étaient très, très chauds. Comment vous analysez leur performance et ça les laisse où? Je vais commencer avec vous, Tasha.
Ben, je pense que le Bloc aussi a été déçu parce qu'il voulait 40 sièges au début de cette campagne. Dernière compte, c'était 34. Alors, ils ont deux de plus. Mais c'est pas, quand on repense à aussi la vague qu'ils avaient après le débat anglophone des chefs, on pensait que, mon Dieu, c'est tout d'un coup, ils vont vraiment capter beaucoup d'autres sièges. Ils n'ont pas fait ça. Je pense que M. Blanchet aussi, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de grondements à l'intérieur du parti à propos de ses positions environnementales qui étaient différentes de ceux du Parti québécois. Et alors, je pense que les gens vont s'interroger à son leadership dans les mois et les années qui viennent.
Carl?
Ben, j'ai pas compris pourquoi François Blanchet a mis la barre si haute parce que à une semaine des élections, là, avant le débat en anglais, avant le vote par anticipation, le Bloc était positionné pour perdre des sièges au Québec. Le débat en anglais les a aidés certainement. Ça a mis un peu le feu aux poudres et ça a fait sortir le vote bloquiste lors du vote par anticipation. D'ailleurs, toutes ces courses serrées, là, c'est le vote par anticipation qui a fait gagner le Bloc. C'est ce qui sortait à la fin. C'est ce qu'on voyait. Je pense que le ton de François Blanchet hier était... donc, il n'était pas très victorieux malgré le fait que le Bloc, pour la première fois en plusieurs élections, a remporté le vote populaire au Québec et peut s'imposer encore une fois comme un incontournable. Alors, il peut poursuivre sur son élan et demeurer vraiment le fer de lance des ambitions du gouvernement caquiste, des ambitions des nationalistes québécois et demeure vraiment là, un joueur clé à la Chambre des communes.
Bon, on termine rapidement en parlant de Maxime Bernier et du Parti vert. Tasha, je vais vous demander de parler de Maxime et Carl, par la suite, de l'avenir des Verts. Alors, allez-y, Tasha.
Ben, Maxime s'en va pas parce qu'il est son parti, il a nulle part d'autre à aller. Alors, autant qu'il peut trouver une foule, puis un problème, puis un mégaphone, il va être là. Est-ce que ça va endurer, d'ailleurs, après la pandémie? Ça, c'est la question. Espérons que la prochaine élection ne tourne pas sur des questions pandémiques, qu'on a dépassé ça. Toute la question anti-vaccination qui a été tournée au anti-gouvernementalisme de M. Bernier et son parti, est-ce que ça va disparaître? Alors, si c'est le cas, est-ce que son vote va être réduit, sa puissance réduite? Pour moi, c'est la question. Est-ce qu'il peut continuer de grossir le parti et sa base ou non?
Et Carl, est-ce qu'il y a un avenir pour les Verts après cette performance très décevante?
Ben, il y a un avenir, mais il faut commencer par le départ d'Adamy Paul qui n'a aucun sens politique. Là, c'était évident au cours de son leadership. Et si j'étais les Verts, moi, je choisirais comme nouveau chef Mike Morris, le nouveau député de Kitchener Centre. Une percée du Parti vert en Ontario, ça pourrait être la clé pour eux, pour plusieurs sièges. Mais pour ça, faut pas perdre son temps à tenter de se faire élire un peu n'importe où. Là, faut avoir un siège en place. Et Mike Morris à Kitchener Centre est la solution.
Et avec une victoire très décisive, d'ailleurs. Carl Bélanger, vous êtes analyste politique pour Cogeco Média. Tasha Keridan, vous êtes analyste politique et conseillère chez Navigator. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Salut, bye bonne bye. Journée. Et bien sûr, que serait un segment politique sans le grain de sel de notre ami Luc Lavoie. Salut Luc.
Salut Philippe.
En forme? Passe une belle soirée, tu t'es couché tard?
On est sorti des ondes, il était 2h du matin. Bon. Alors, la nuit a été courte.
Bon, OK. Alors, écoute, t'as entendu la conversation avec nos deux analystes. Pour toi, Luc, est-ce qu'il y a un des chefs qui sort plus affaibli que les autres du résultat de l'élection?
Justin Trudeau, sans aucun doute. C'est vrai, on se réveille ce matin, c'est une copie, un copier-coller, comme on dit de nos jours, avec le Parlement précédent. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voter pour Trudeau puis qui n'étaient pas de bonne humeur. Les gens sont pas de bonne humeur, OK? Ils n'ont pas aimé ça, cette élection-là. Ils n'ont pas voulu de cette élection-là. Mais une fois rendu devant le bulletin de vote, là, ben là, il fallait bien qu'ils votent. Hein? Alors, ça a donné le résultat que ça a donné. Mais je pense qu'il sort de là très affaibli.
Bon, et Erin O'Toole, t'as vu son discours? Comment tu l'as interprété, son discours de fin de soirée? On serait cru, là, juste la veille des élections, quand tu veux galvaniser les troupes une dernière fois avant que les gens aient voté. Moi, j'ai été un peu étonné par le ton, mais peut-être que c'était la chose à faire dans les circonstances.
Ben, lui, son problème, c'est qu'il y a deux partis dans le parti. OK? Quand il y a eu, au début des années 2000, fin des années 90, la fusion entre l'Alliance et l'ancien Parti conservateur, ben l'Alliance, qui était autrefois le Reform, a dominé. Ils ont pris le contrôle, puis ils ont fait élire Stephen Harper. Puis les joueurs principaux au gouvernement étaient des ministres en provenance de l'Ouest canadien. Là, ils se retrouvent avec deux partis. Le parti traditionnel d'autrefois, le Parti progressiste conservateur, on les trouve en Ontario. On les trouve certainement au Québec, on les trouve un peu dans les Maritimes. Et là, ces deux morceaux-là, il faut que ça travaille ensemble comme si c'était un parti. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Tout au long de la campagne, Erin O'Toole se voulait plus centriste, plus au centre des préoccupations politiques, mais il allait contre la volonté des gens qui l'ont porté au leadership il n'y a pas si longtemps. Alors, ça va être extrêmement difficile pour lui de les tenir ensemble, ces deux ailes-là. N'oublions pas que, pour emporter son leadership, il avait fait de l'œil aux anti-avortements. Il avait fait un peu d'œil à ceux qui voulaient maintenir le droit du port des armes. Mais il se retrouvait dans une situation où on disait, oui, mais là, sur les armes à feu, là, êtes-vous pour? Vous êtes contre? Pourquoi? Est-ce que vous préférez ci ou ça? Donc, il dansait tout le temps. Il était toujours en train de se promener de droite à gauche. Par exemple, sur la vaccination, c'est probablement une terrible erreur de sa part. Il n'a pas voulu imposer à ses candidats d'être vaccinés. Alors, tu vois, il a beau dire, moi, j'ai été vacciné, j'encourage tout le monde à se faire vacciner, mais c'est pas moi qui va forcer mes députés à le faire ou mes candidats, ben voyons donc. Alors, lui, il est sorti de là avec un gros contrat. Comment faire pour réunir ces deux groupes-là qui sont parfois littéralement aux antipodes? Les progressistes conservateurs que représente O'Toole ou qu'il veut représenter sont essentiellement bonnet blanc, blanc bonnet avec les libéraux. Là, disons que les conservateurs ont tendance à être plus pro-business, ils ont tendance à être plus pro-américains, ce genre de choses-là. Mais grosso modo, il y a deux partis.
Mais c'est justement ce parti-là, c'est le regroupement de deux partis. Alors, peut-être que c'est resté dans l'ADN profondément.
Hey, Luc, c'est bien dit.
Luc, le temps file. Je te propose pour... tu vas participer, tu vas être là plusieurs fois durant l'émission, mais quand on va reparler de politique ensemble, je pense que c'est autour de 14 heures, je te propose qu'on parle de François Legault, de l'impact de ces résultats de ces élections-là pour François Legault et bien sûr du Bloc québécois et dit François Blanchet.
Juste un dernier mot avant de te quitter. Maxime Bernier, tu as dû écouter son discours.
Oui,
c'était du pur délire. Incroyable, ce gars-là, il va pas, faudrait qu'il consulte.
C'était vraiment très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Hey Luc, merci, on s'en parle tantôt.
À tantôt.
Excellent. Et au retour, il y a une histoire vraiment intrigante et troublante. La police de Terrebonne qui a reçu une vidéo le mois dernier dans laquelle on peut voir un jeune là qui a un pistolet contre la tempe. Ce sont deux autres personnes qui le tiennent comme ça en joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une scène qui est vraiment arrivée ou c'est plutôt une mise en scène? La police de Terrebonne ne le sait pas encore. On va parler de tout ça avec la criminologue Maria Mourani.